21h30 à Paris, 2h de moins en temps universel. C'est la nouvelle édition d'Afrique Soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. À la une, le Bénin choqué par la mort de 54 soldats béninois selon un nouveau bilan de l'attaque de deux postes avancés dans le nord le 17 avril. Un bilan confirmé par les autorités béninoises. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis que les groupes djihadistes ont ciblé le pays. En Côte d'Ivoire, le PDCI réagit après la radiation par la justice de la liste électorale de son candidat Tidiane Thiam, écarté de la présidentielle d'octobre prochain. Les parlementaires de ce parti d'opposition suspendent leur participation aux sessions à l'Assemblée nationale. Nous évoquerons le conflit dans l'est de la RDC. Nous ferons le point sur les discussions directes à Doha, au Qatar, entre Kinshasa et l'AFC M23. Enfin, la visite d'Emmanuel Macron à Madagascar. Le président français annonce avec son homologue malgache, Ange Radzwell, toute une série d'accords de coopération économique. L'émotion est vive au Bénin. Le pays vient de subir l'attaque la plus meurtrière depuis que les groupes djihadistes ciblent ce pays. Selon un nouveau bilan qui a été confirmé par les autorités, ce sont 54 soldats béninois qui ont été tués dans l'attaque de deux postes le 17 avril dans le nord. Un bilan nettement revu à la hausse puisque le précédent faisait état de 8 victimes. Jean-Luc Aplogan.
Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houmédi, a donné les mêmes chiffres ce mercredi lors du point sur le Conseil des ministres. Ces nouveaux chiffres sont communiqués 6 jours après l'attaque. Une source militaire confie que ce dernier bilan est, je cite, « presque définitif ». Du coup, notre interlocuteur a revu à la hausse le nombre de soldats béninois blessés, ainsi que le nombre d'assaillants neutralisés lors des combats et après ratissage. Toujours pas de détails sur les circonstances. Les deux positions ciblées ont été attaquées simultanément, l'une au point triple à la frontière Bénin-Niger-Burkina et l'autre près des chutes de Koudou dans le parc W. Les assaillants sont arrivés, très nombreux et à moto, et lancé une attaque d'une violence inouïe. On parlait de l'attaque du 8 janvier 2025 comme la plus meurtrière. Celle du 17 avril dernier a fait plus de décès dans le rang de l'armée béninoise. Un bilan qui suscite une vive émotion dans l'opinion publique béninoise et de multiples interrogations sur la toile. Beaucoup visait le gouvernement. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Direction la Côte d'Ivoire avec ses réactions du PDCI après la radiation de la liste électorale de son ex-candidat à la présidentielle d'octobre, Tidiane Thiam. La justice estimant qu'il n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur la liste en 2022. L'opposition parlementaire du PDCI est en colère. Elle décide de suspendre sa participation aux sessions de l'Assemblée nationale. Mais le parti de Félix Houphouët-Boigny mise toujours sur sa candidature à Abidjan. Binta Diagne.
Révoltés, les députés du PDCI ont décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale ce mercredi en signe de protestation suite à la décision de justice ordonnant la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale. Simon Doho est le président du groupe parlementaire du PDCI.
Beaucoup d'arguments juridiques sont avancés, mais c'est une orchestration savamment préparée par le pouvoir en place.
Au lendemain de la publication de la liste électorale provisoire le 17 mars dernier, les députés du PPACI ont également suspendu leur participation à l'Assemblée nationale tant que l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, n'est pas inscrit sur la liste. Hubert Houlaye, le président du groupe parlementaire du PPACI, exprime aujourd'hui sa solidarité avec le PDCI.
Pour la fiabilité et la paix des prochaines élections, il fallait avoir un consensus, aussi bien sur les futurs candidats que sur le processus électoral. À ce jour, nous voyons que rien ne bouge.
Le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, rejette ces accusations et rappelle le principe de séparation des pouvoirs.
Nous sommes en train de bâtir un État de droit qui est basé sur le respect des textes. En la matière, le droit a été dit dans chacun de ces cas. Je ne vois pas où est-ce que le gouvernement intervient.
Ce responsable du gouvernement rejette l'idée d'un nouveau dialogue tel que réclamé par l'opposition, car la 5e phase du dialogue politique est bouclée et pour éviter, je cite, « des arrangements qui ne sont pas conformes avec les textes ». Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel rejette la loi phare du nouveau pouvoir révisant la loi d'amnistie adoptée en mars 2020. 2024 pour apaiser les tensions politiques sous l'ancien président Macky Sall. Le Conseil estime qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. La loi invalidée par ce Conseil ouvrait la voie à des poursuites judiciaires contre des caciques du régime de l'ancien président Macky Sall dans les événements de 2021 à 2024. Au Ghana, c'est une procédure sans précédent. Le président annonce la suspension de la présidente de la Cour suprême. La plus haute magistrate du pays fait l'objet de plusieurs pétitions qui réclament sa destitution pour mauvaise conduite et abus de pouvoir. À Accra, Victor Carillo.
Au regard des accusations formulées à l'encontre de la plus haute magistrate du Ghana, le président John Dramani Mahama a déterminé qu'il disposait d'assez de preuves pour exiger l'ouverture d'une enquête. Voici comment, en substance, le porte-parole du chef d'État a justifié par voie de communiqué la suspension de la présidente de la Cour suprême, Gertrude Torcorno. L'enquête, menée par un comité nommé par le président, devra déterminer le bien-fondé des allégations de mauvaise conduite et d'abus de pouvoir présentées par les trois pétitions. Enquête à l'issue de laquelle le président arbitrera sur la destitution de la magistrate. Une éventualité qui serait sans précédent dans l'histoire de la 4ème République et qui inquiète certains députés de l'opposition. Ces derniers y voient une volonté de remplacer la présidente de la Cour suprême par, je cite, une personne politiquement complaisante avec le pouvoir en place, ainsi qu'une décision dangereuse pour l'avenir de la démocratie ghanéenne. La présidence indique quant à elle agir dans le respect de la Constitution, sans préciser pour l'instant la date à laquelle sera rendue la décision. Victor Cariou, Accra, RFI.
RFI, 19h36, en temps universel. On en vient au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous au plan diplomatique? Une étape, en tout cas, vient d'être franchie. Il s'agit du deuxième round des discussions directes entre Kinshasa et l'AFC M23 qui s'est achevé à Doha, au Qatar. Alors, pas d'accord signé, mais un projet de texte a été validé. Les précisions de Patien Ligodi.
Les discussions directes entre Kinshasa et l'AFC M23 ont pris fin le 14 avril, selon les informations de RFI. Depuis, les échanges se poursuivent, mais de manière indirecte à travers la médiation. Objectif, parvenir à un communiqué conjoint. Un pas qualifié par les deux parties d'important a été franchi le 17 avril, avec une réunion tenue sous l'égide du médiateur. Un consensus a été trouvé sur un projet de texte. Ce document validé par les deux délégations doit servir de base pour un accord de cessez-le-feu. Mais à ce jour, ce texte n'a toujours pas été signé, et le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas encore donné son approbation formelle. Du côté de l'AFC M23, des interrogations subsistent notamment sur les mesures de confiance. Selon nos informations, le mouvement armé avait transmis une liste d'au moins 740 personnes, des proches, des membres ou des personnes accusées d'être liées à l'AFC M23. Seules 5 personnes ont été libérées et aucune d'entre elles n'est figurée parmi les détenus les plus emblématiques comme les condamnés à mort. Dans les rangs de l'AFC M23, selon nos informations, on estime que le pouvoir congolais temporise, cherchant à gagner du temps, à consolider ses positions militaires et à compter sur une pression internationale croissante sur le mouvement.
Dans l'actualité également, la visite d'État d'Emmanuel Macron à Madagascar, la première d'un chef d'État français depuis François Hollande. Emmanuel Macron a signé avec le président malgache Ange Radzwell toute une série d'accords économiques dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture ou encore de l'énergie, car la France entend soutenir la production d'énergie renouvelable grâce à des investissements massifs et c'est un enjeu capital pour la Grande Île dont 2/3 de la population n'a pas accès à l'électricité. Et quant au contentieux territorial des îles éparses, les deux chefs d'État ont également annoncé la tenue d'une prochaine réunion sur ce dossier très sensible. Guilhem Fabry.
Chantier prioritaire pour Madagascar, le projet de centrale hydroélectrique de Voloubé va bénéficier d'une participation de l'entreprise française EDF à hauteur de 37,5% du capital. Cette infrastructure, censée produire de l'électricité pour environ 2 millions de personnes, aura un impact concret et durable pour les populations, promet le président malgache Ange Radzwell.
L'expertise française, conjuguée à nos efforts de modernisation, renforcera la capacité de Madagascar à atteindre dans les meilleurs délais un accès universel à une énergie propre, durable et abordable pour toute notre population.
La question des îles éparses n'a pas été éclipsée, mais l'heure est encore au statu quo. Contrôlées par la France, qui occupe ainsi une position stratégique dans le canal du Mozambique, elles sont réclamées de longue date par la partie malgache. Le président français Emmanuel Macron.
Sur le sujet des îles éparses, nous avons décidé de tenir une réunion de la commission mixte franco-malgache pour ouvrir des perspectives communes de développement et de coopération le 30 juin prochain à Paris. Et je veux dire que depuis 2019, nous gérons avec pragmatisme ce sujet.
Au cours de cette première journée de visite, Emmanuel Macron s'est aussi félicité de la restitution prochaine de trois crânes sakalaf pillés pendant la conquête coloniale française. Il n'a en revanche pas donné suite, jusqu'à présent, à la demande d'historiens malgaches de créer une commission de recherche sur les violences coloniales. Guillaume Fabrian, Tananarive, RFI.
Et c'est la fin de cette deuxième édition d'Afrique Soir. Merci à vous de l'avoir suivi, les 21h40 ici à Paris.